Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'écoute de la radio francophone iranienne en ce dimanche 2 avril 2023, le 13 Farvardin 1402 du calendrier persan. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique avec pour titre « La Géorgie, deuxième front anti-russe de l'Occident après l'Ukraine ». Restez avec nous. Un deuxième conseiller militaire iranien tué en Syrie, le corps des gardiens promet de riposter à Israël. Le Yémen empêche l'entrée de produits en provenance de pays européens qui profanent le noble Coran. Les manifestations anti-Netanyahou se poursuivent en Palestine occupée. Et en France, et dans le contexte de la réforme des retraites, la justice suspend une interdiction de rassemblement nocturne à Paris. C'était les principaux titres de l'actualité, en voici le détail. Le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, a lancé dimanche un avertissement à Tel Aviv promettant de riposter la mort en martyr de deux de ses conseillers militaires en Syrie lors d'une frappe aérienne israélienne contre Damas. Plus tôt dans la journée, la radio-télévision iranienne IRIB a rapporté qu'un conseiller militaire du CGRI est décédé des suites de ses blessures après une frappe aérienne israélienne vendredi près de la capitale Damas, devenant la deuxième victime de l'agression israélienne. Suite au décès du deuxième conseiller identifié comme étant M. Merdad Mehrani, le CGRI a publié un communiqué dans lequel il a réaffirmé que le régime facticioniste recevrait indubitablement la réponse de ce crime odieux. La frappe sur la banlieue de Damas, la sixième contre la région syrienne depuis début mars, avait tué Milad Heydari, conseiller du CGRI, ce dernier ayant émis un avertissement similaire après avoir confirmé la mort en martyr de M. Heydari. Selon l'agence de presse syrienne Sana, des avions de chasse israéliens ont touché le territoire syrien depuis le nord du plateau du Golan, occupé très tôt vendredi matin, et ils ont ciblé une installation dans la banlieue de Damas. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a lui aussi fermement condamné les attaques israéliennes à l'aube de jeudi et vendredi sur certains points de Damas et de ses environs. Le Conseil politique suprême yéménite a demandé aux autorités de Sanaa d'empêcher l'entrée de marchandises produites à partir de pays où le Saint-Coran a été profané. Samedi 1er avril, le Yémen a interdit l'entrée des marchandises produites par des pays européens qui ont permis la profanation du Saint-Coran dans le cadre de ce que le chef du mouvement de résistance Ansarala a qualifié de sanctions économiques. L'agence de presse yéménite Sabah a rapporté que le conseil politique dirigé par Mahdi al-Mashat a condamné lors d'une réunion du samedi 1er avril les profanations répétées du noble Coran, dont le dernier en date était le Todafé du livre saint au Danemark. Le conseil a ordonné au gouvernement de salut national d'empêcher l'entrée de produits en provenance de pays qui avaient permis de profaner le Saint-Coran et de
préparé un mécanisme de mise en œuvre, a-t-on appris de la même source. Sur le même volet, le leader d'Ansar Allah, Sayyid Abdul Malik Badr al-Houssi, a fermement condamné vendredi l'autodafé du Saint-Coran en Europe avant de souligner la nécessité pour les musulmans de prendre une position dans la guerre menée contre l'islam. L'actualité aussi, la Cisjordanie. Les forces israéliennes ont tué un jeune Palestinien dans la partie sud de la Cisjordanie occupée, disant qu'il avait mené samedi soir une attaque à la voiture bélier contre les troupes du régime à un poste de contrôle en Cisjordanie. Mohamed Raed Baradia, 24 ans, a été tué samedi par les forces du régime israélien près de la ville de Beit Oumar, au nord de la ville d'Al-Khalil, en Cisjordanie, a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne Wafa, citant le ministère palestinien de la Santé. Selon le rapport, les autorités israéliennes ont déclaré que le jeune homme a percuté avec sa voiture les soldats du régime stationnés à un poste de contrôle près de la ville de Beit Oumar, blessant trois d'entre eux, dont deux se trouvent dans un état critique. Le ministère a déclaré que des soldats israéliens avaient ouvert le feu sur le jeune Palestinien alors qu'il conduisait son véhicule, le blessant grièvement. Il a ensuite succombé à ses blessures. Après la fusillade, les forces israéliennes ont laissé Baradia saigner jusqu'à ce qu'il meure des suites de ses blessures, tout en empêchant le personnel médical d'accéder au lieu. Le Hamas et le djihad islamique ont par la suite salué l'attaque d'Al-Khalil contre les forces israéliennes. Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé à travers les territoires occupés pour la 13e semaine consécutive afin de protester contre un ensemble de réformes judiciaires controversées proposées par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Plus de 150 000 personnes ont envahi la ville côtière de Tel Aviv lors de la manifestation de samedi 1er avril, ont indiqué les médias israéliens, tandis que de plus petits rassemblements ont eu lieu dans d'autres villes. Des manifestations ont éclaté en janvier après que la coalition au pouvoir a annoncé son train de réformes qui, selon le régime, est nécessaire pour rééquilibrer les pouvoirs entre les législateurs et le pouvoir judiciaire. Les réformes proposées réduiraient l'autorité de la Cour suprême et donneraient aux politiciens de plus grands pouvoirs sur la sélection des juges. Les opposants de Netanyahou voient la volonté de son cabinet d'adopter la législation sur les soi-disant réformes comme une menace pour l'indépendance de la Cour suprême, la décrivant comme un coup d'État judiciaire. Ils accusent Netanyahou d'essayer d'exploiter les réformes pour annuler d'éventuels procès contre lui, faisant face à trois affaires de corruption. Netanyahou a retardé lundi 27 mars son plan de mise en œuvre de changements au sein du système judiciaire sous la pression de la rue et les voix politiques dissidents, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur d'Israël. Nous ne croyons rien de ce qui sort de la bouche de Bibi. Nous pensons que c'est juste un coup politique pouvant arrêter la manifestation, a pourtant déclaré un manifestant à propos de la soi-disant suspension. Destination France, où la justice vient de suspendre une interdiction de rassemblement nocturne à Paris, la capitale. L'arrêté du préfet de police interdisait de manifester entre le 1er avril à 17h et le 2e avril à 3h du matin dans plusieurs secteurs de la capitale proches des lieux de pouvoir ou théâtre de récents heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Le tribunal administratif de Paris a annulé le 1er avril un arrêté du préfet de police qui interdisait des rassemblements, jugeant qu'ils portaient atteinte à la liberté de manifester, selon l'ordonnance du juge des référés consulté par l'AFP. L'arrêté du préfet de police interdisait également aux abords et au sein des manifestations le port d'engins pyrotechniques, de substances dangereuses ou d'équipements de protection destinés à mettre en échec le maintien de l'ordre. Le tribunal administratif a jugé ces deux interdictions disproportionnées, soulignant que plusieurs manifestations déclarées le 1er avril à Paris se sont déroulées sans heurts. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique. La révolution colorée orchestrée par les États-Unis revient en Géorgie, analyse du journaliste d'investigation Kit Klarenberg. Au cours de la deuxième semaine de mars, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Tbilissi, la capitale de la Géorgie, pour protester contre un projet de loi qui obligeait les ONG et les organisations médiatiques du pays à divulguer leur financement étranger si celui-ci représentait plus de 20% de leurs revenus annuels. Bien que le gouvernement ait finalement cédé à la pression et abandonné la législation, il y a peu de raisons de douter qu'une révolution de couleurs orchestrée par les États-Unis, que le projet de loi visait précisément à empêcher, puisse se produire à nouveau dans un avenir très proche. Après tout, la Géorgie a été un terrain d'essai précoce pour cette forme insidieuse de changement de régime occidental, un modèle qui s'est avéré un tel succès qu'il a ensuite été exporté à travers le monde à plusieurs reprises au cours des premières décennies du XXIe siècle. La révolution des roses de 2003 en Géorgie a été le deuxième coup d'État occidental dans l'ancienne Union soviétique ou dans ses environs après le changement de millénaire. Après la Serbie en 2000, Tbilissi a été suivi par l'Ukraine l'année suivante et le Kirghizistan en 2005. Aujourd'hui, ces bouleversements sont présentés dans les médias mainstream comme des luttes légitimes du pouvoir de peuple contre la tyrannie. Pourtant, à l'époque, les médias occidentaux étaient remarquablement francs sur le rôle central joué par le National Endowment for Democracy, NED, une agence américaine qui fait ouvertement ce que la CIA a fait autrefois secrètement, et l'investisseur milliardaire George Soros dans le renversement de ses gouvernements. En 1991, le Washington Post a rapporté comment la NED Soros avait contribué à inaugurer une ère de coup d'État sans espionnage menée via des opérations manifestes. L'organisation a financé des ONG anti-gouvernementales, des groupes de droits de l'homme, des collectifs d'activistes politiques, des médias, des syndicats et même des établissements d'enseignement pour détruire le communisme dans l'ancien pacte de Varsovie et l'URSS. Les récits modernes de la Révolution des Roses témoignent généralement de ce qu'elle était de nature explicitement anti-russe. Pourtant, l'ancien président de la Géorgie, Edouard Shevardnadze, était agressivement pro-occidental et les relations entre son gouvernement et Moscou étaient médiocres tout au long de sa présidence de 8 ans. De toute évidence, Shevardnadze n'était pas suffisamment pro-occidental ou anti-russe pour Soros ou la NED, et on estimait que Saakashvili servirait les intérêts de Washington plus efficacement et de manière plus servile. Cela souligne le danger que représentent les opérations manifestes, même pour les gouvernements obéissants. En cas de coup d'État réussi, le financement parallèle des ONG d'opposition et des médias se poursuit, garantissant que des troubles peuvent être déclenchés à tout moment si une administration soutenue par l'Occident n'ose pas agir comme il se doit. C'est précisément ce qu'on a vu récemment dans les rues de Tbilissi. Un examen de 2022 du financement de la NED en Géorgie montre que celle-ci continue de soutenir les programmes dits pro-démocratie là-bas, coûtant des millions de dollars. De nombreuses organisations bénéficiaires, telles que le Shame Movement, ont été à l'avant-garde des récentes manifestations.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'émission Débat. en direct depuis la capitale iranienne Téhéran. Et en effet, les manifestations, les contestations et les grèves se poursuivent en France. Mais ce n'est pas tout. Il semblerait qu'il y aurait des fissures au sein du camp de Macron. Emmanuel Macron semble désormais être empêtré dans ses propres politiques. Les députés, les politiciens français qui ne sont pas forcément d'accord avec Emmanuel Macron, une politique qui a été prise par ce président français, mais qui n'a pas d'avenir apparent. Alors, quel en sera l'avenir de ces contestations et de ces exigences du peuple français? Est-ce qu'Emmanuel Macron acceptera de changer de politique et de prise de position? Nous allons répondre à ces questions avec nos deux invités. Mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet. On revient tout de suite après.
En France, alors que les grèves et les manifestations se poursuivent sans relâche, des failles sont apparues dans le camp de Macron. Plusieurs rassemblements contre la réforme des retraites et la répression policière ont été organisés jeudi 30 mars dans toute la France. Pour ce vendredi, la circulation des trains sera perturbée sur certaines lignes du réseau SNCF en Île-de-France. Jeudi à Lyon, Nantes, Lille, Paris et dans d'autres villes de France, des centaines ou des milliers de personnes se sont rassemblées près des préfectures contre la répression à Sainte-Soline et les violences policières dans les manifestations, ont constaté des journalistes de l'AFP. Après le rassemblement prévu devant la mairie, plusieurs centaines de manifestants sont descendus dans les rues de Paris jeudi soir. Les manifestants ont allumé des feux, érigé des barricades et la police s'est déployée pour tenter de les arrêter. Selon BFM TV, 4500 personnes ont manifesté devant l'hôtel de ville. À Paris, le rassemblement de 4500 personnes, selon la préfecture de police, s'est transformé dans la soirée en manifestation par petits groupes au cœur de la capitale. 7 personnes ont été interpellées dans le cortège, selon un bilan de la police à 22h30. Selon le parquet de Paris, près de 600 personnes se sont retrouvées en garde à vue à l'issue de la manifestation contre la réforme de retraite mardi 28 mars à Paris, qui a relié la place de la République à Nation. 7 personnes ont été déférées en vue d'une comparution immédiate. Au total, selon le ministère de la Justice, sur la période du 16 au 25 mars, inclus sur l'ensemble du territoire, soit 10 jours de manifestation et sans la 10e journée de mobilisation du 28 mars, 1346 personnes ont été placées en garde à vue. Celles-ci ont donné lieu à ce stade à 195 poursuites devant le tribunal judiciaire. Ce qui a commencé en janvier comme une protestation syndicale contre le projet de M. Macron de relever l'âge de la retraite de 2 ans à 64 ans s'est transformé en un mouvement plus large, avec des manifestations de masse organisées dans toute la France qui ont souvent tourné à la violence. La détermination du président Emmanuel Macron à imposer sa réforme de retraite malgré les manifestations de masse, créent des divisions entre le ministre et ses alliés. Les sondages suggérant que les électeurs souhaitent un remaniement ministériel exercent une pression supplémentaire sur le Premier ministre Elisabeth Borne. Certains de ses collègues étaient susceptibles d'envisager de prendre sa place si elle est contrainte de démissionner en raison de la gestion de la crise par son gouvernement.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Je vous présente nos deux invités, juriste international et sociologue, expert des questions internationales. Il s'agit de Maître André Chemy, qui est avec nous depuis Alsace par Skype. Également Luc Michel, géopoliticien, qui est avec nous par téléphone depuis Bruxelles, Belgique. Maître, je vous dis bonjour et merci de nous avoir accordé votre temps pour cette émission. Maître, vous qui suivez de très près les événements, les évolutions, dans un premier temps, comment interprétez-vous ces plusieurs semaines de manifestations et de contestations en France? Quelle est la situation actuelle de la France?
Aujourd'hui, on peut dire que la situation est particulièrement tendue. Cette tension est perceptible dans la rue au quotidien, mais notamment au cours des manifestations, parce qu'en réalité, les manifestations se transforment en une espèce de théâtre pour que chacun exprime ce qu'il ressent par rapport à la situation globale, puisque nous sommes à la, je dirais, dans l'aboutissement d'une série de mesures qui durent depuis des années. Il y a eu la crise qu'on a appelée sécuritaire, puisqu'on a parlé du terrorisme et on a imposé un certain nombre de règles aux Français qui ont abouti à la mise en place de lois liberticides. Ensuite, il y a eu la crise sanitaire où les libertés ont également été réprimées, je ne peux pas le dire autrement, puisque quand vous êtes resté enfermé pendant des semaines et des mois au prétexte qu'on vous donne de quoi manger, évidemment, ça crée un traumatisme. Ce traumatisme-là a également, je dirais, été accentué par le comportement des gouvernants et notamment postérieurement à cette crise. Et au cours de cette crise sanitaire, il y a eu des répressions, je ne veux pas dire autrement, contre le personnel soignant qu'on a applaudi au départ et puis ensuite qu'on a exclu au prétexte qu'il refusait de se soumettre aux obligations vaccinales. Là, la loi retraite est une démarche supplémentaire dans le cadre de ce que j'appelle, moi, le cahier des charges pour lequel Emmanuel Macron a été élu une première fois, une deuxième fois. Il est venu avec un cahier des charges, c'est-à-dire les promoteurs de la politique macroniste qui ont parachuté Macron pour devenir président et ensuite maintenant une deuxième fois par esprit de contradiction parce qu'il a été posé la question « Est-ce que vous voulez Macron ou est-ce que vous voulez Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen ?» Et à ce moment-là, évidemment, il y a eu beaucoup d'alliances, y compris syndicales, qui ont été faites au profit de Macron, alors qu'il ne voulait pas voter pour lui. C'est-à-dire, c'est une élection par défaut et ce n'est pas une élection par adhésion. Et lui, il a cru pouvoir s'accrocher dessus en disant « Ils ont adhéré à mon projet ». Au début, il a essayé de le vendre comme ça. « Moi, je ne vous ai pas trompé, puisque ça faisait partie de mon projet ». Sauf qu'il n'a pas été élu sur son projet, il a été élu par défaut. C'est-à-dire, moi j'appelle ça un défaut de démocratie parce qu'il n'y avait que deux candidats qui ne semblaient pas tous les deux correspondre aux attentes. En tout cas, c'est la lecture que l'on peut faire.
Oui.
Et à ce moment-là, Macron a été élu, encore une fois, par défaut de démocratie parce que la démocratie n'offrait pas une troisième voie. Et à partir de là, lui, il a cru pouvoir forcer les barrières et avancer coûte que coûte pour appliquer encore une fois son cahier des charges. Et dedans, il y a la loi sur la réforme des retraites. Sauf que ça vient dans une période de crise, une crise qui est liée soi-disant à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais en réalité, la crise économique est beaucoup plus grave. Elle a commencé avant, elle se poursuit. Et quand on regarde de près les éléments qui caractérisent cette crise, pour l'essentiel, ça ne fait aucun doute, il n'y a pas de lien avec la crise Russie-Ukraine. Et par conséquent, quand vous rajoutez tout ça, et les gens ne sont pas tous des idiots, il y en a qui suivent comme des moutons, mais il y a aussi ceux qui réfléchissent et qui font de l'analyse, et maintenant ils comptent sur ce qu'on appelle les médias alternatifs pour s'informer, ils comprennent qu'ils ont été jusqu'à maintenant des victimes. Et là, on leur rajoute la loi retraite, et c'était en quelque sorte la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais en réalité, la loi retraite n'est pas le seul indicateur de la crise, c'est l'un des indicateurs, mais il y en a d'autres. Et ces indicateurs de crise, c'est la situation économique, c'est la situation de pauvreté, c'est la situation de crainte par rapport à l'avenir de chacun, parce que ce qui se dit à l'ensemble de la population, en réalité, c'est qu'ils allaient perdre leurs économies, le peu d'économies qu'il leur reste, et ceux qui n'ont pas d'économie vont être dans la misère noire. Et tout cela, évidemment, crée ses peurs. Et à ce moment-là, tout le monde se révolte. Moi, j'ai toujours dit que le Français ne se révolte que quand son beefsteak est menacé. Et aujourd'hui, il y a une sensation forte que le beefsteak est menacé. Et la loi retraite est devenue le défouloir pour que les gens puissent défendre leur beefsteak et aller au-devant de la scène. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, la situation est particulièrement grave. Si j'ai l'occasion de m'exprimer davantage, je vous dirai qu'on peut aboutir à une situation qui est incontrôlable et qui pourrait échapper même à, je dirais, au contrôle de l'ensemble des autorités françaises.
D'accord, très bien. Merci, maître, pour vos explications. On reviendrait à vos explications quant à une situation incontrôlable, comme vous le dites. Mais Luc Michel, géopoliticien, est également avec nous depuis Bruxelles. Monsieur Michel, bonjour et merci d'avoir accordé votre temps pour cette émission.
Bonjour à votre équipe et merci. Bonjour, maître.
Merci infiniment. Monsieur Michel, vous, comment interprétez cette situation en France?
Je suis en partie d'accord avec maître, mais pas surtout. En réalité, c'est un régime minoritaire qui représente moins de 20% des Français. Et lorsqu'on exerce des élections manipulées par des fous, on arrive à ce blocage de la société. Par contre, je pense au contraire que la crise actuelle est en lien direct avec l'Ukraine et avec la désoxygénation du monde. C'est l'échec de la société occidentale qui conduit à cette remise en cause de la société occidentale en Europe. Et si je peux terminer, je crois qu'il n'y aura pas de solution parce que Macron ne se représentera pas aux élections et il est indifférent au sort politique de ses alliés. Je crois donc qu'il va persister et que la France s'enfonce dans une crise de régime profonde.
Monsieur Michel, donc à votre avis, cette crise et ces manifestations ne sont pas liées au mécontentement du peuple français, non seulement en ce qui concerne la crise ukrainienne, mais comme le dit Maître Chamy, la situation économique, la pauvreté, la crainte de l'avenir par le peuple français?
Écoutez, la situation économique, elle est accélérée par l'Ukraine, justement, par les erreurs de l'Union européenne. Et n'oubliez pas que c'est la volonté au départ, par des gens comme Macron, d'imposer le modèle social américain à l'Europe qui a conduit à cette crise. Donc pour moi, il y a un lien direct avec la crise ukrainienne et la désoxygénation du monde.
Maître, vous pourriez également réagir aux déclarations de M. Michel, mais vous avez évoqué la situation incontrôlable. On pourrait, vous avez dit, aboutir à une situation incontrôlable même par toutes les autorités françaises.
Moi, je participe de temps à autre aux manifestations comme mon tante me le permet. Et je peux vous dire que la colère est perceptible. Il suffit de regarder ce qui s'est passé il y a quelques jours à propos d'un autre sujet qui était la création d'une bassine de rétention d'eau dans une commune qui s'appelle Sainte-Soline. Nous avons assisté à de véritables scènes de guerre. Et je pèse mes mots, une véritable scène de guerre. Les forces de sécurité ont dû recourir à des armes de guerre. Vous m'entendez? Armes de guerre.
Oui.
C'est-à-dire pour pouvoir dire qu'en France, on utilise des armes de guerre dans une telle manifestation au prétexte de pouvoir faire face à une situation de crise que certains qualifient d'écologique ou etc., ça veut dire qu'on a dépassé les limites que l'on pouvait imaginer, c'est-à-dire la situation pour l'instant est considérée comme sous contrôle, mais je dis bien sous contrôle, mais conditionnelle.
Ah oui.
Pour reprendre la question de cette manifestation, il y avait 3 000 policiers pour 6 000 manifestants, c'est-à-dire il y avait un policier pour deux manifestants. C'est-à-dire c'est quelque chose d'énorme, on ne déploie jamais un tel dispositif de sécurité. Normalement, quand on déploie 10 ou 15 000 policiers, c'est qu'il y a un gros événement. Là, on déploie 3 000 policiers pour un seul événement et vous avez en face de vous 6 000, je dis bien 6 000 manifestants selon la déclaration de la police. Et on arrive à une situation de guerre et à l'utilisation d'armes de guerre que le ministère de l'Intérieur a fini par reconnaître malgré les dénégations au départ. Ça veut dire nous sommes... Moi, j'ai envie de dire, sans vouloir créer une situation de panique, nous sommes dans l'attente de la première balle qui sera tirée. Et quand je dis la première balle, c'est-à-dire qu'il y aura de véritables blessés par balle ou de véritables victimes par balle, et là, la situation deviendrait totalement incontrôlable. Moi, je vous le dis en toute objectivité, mais avec la gravité de la situation et avec la gravité du propos, il faut rester attentif à ce qui se passe, parce que si Macron et son gouvernement, et notamment le ministre de l'Intérieur, ne comprennent pas la gravité de ce qui se passe dans la rue. Ils restent en déphasage par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce qui se passe dans l'esprit du citoyen, c'est qu'ils sont en train de faire fausse route et ça finira très, très, très mal pour l'ensemble de la France, mais surtout pour ce gouvernement et pour le dirigeant.
Mais maître, comme vous le dites, la situation qui est assez critique, quelle serait alors la solution pour ne pas en arriver à une situation incontrôlable, comme vous le dites, vous avez dit des scènes de guerre, donc des situations assez difficiles et critiques. Quelle en serait la solution? Qu'est-ce qu'il faudrait que le gouvernement de Macron fasse?
Écoutez, certains ont crié il y a quelques mois ou quelques semaines plutôt au départ du gouvernement. Mm-hmm. Pour moi, ce n'est pas la solution, mais en réalité, parce que c'est comme quelqu'un qui se déguise. C'est-à-dire, on va ramener un autre gouvernement qui va avoir d'autres noms dans sa composition et il y aura un autre chef de gouvernement, mais en réalité, la politique sera poursuivie. Et il s'agit de la mise en cause de la politique macronienne et du cahier des charges qu'il est en train d'appliquer, comme le disait à juste titre M. Michel. C'est-à-dire qu'il est en train de faire en sorte que l'Europe ressemble dans sa situation sociale et dans sa situation économique aux États-Unis. Mm-hmm. Sur ce point-là, je dirais, je partage le point de vue de M. Michel. Mais il n'empêche que nous sommes face à un gouvernement, à des gouvernements successifs, et aujourd'hui, ce gouvernement paye le prix de ce qui a été fait au fil des années et également par ce gouvernement. C'est pour cela que je dis que la loi retraite est une cristallisation de la gravité de la situation, mais en réalité, la situation était également grave bien avant, en raison de différents problèmes, mais surtout la situation économique qui se dégrade incontestablement. Et il y a la privatisation, en quelque sorte, de tout ce qui se passe en France, la volonté délibérée à terme, c'est de privatiser la santé, c'est de privatiser l'école, c'est de privatiser l'université, c'est de privatiser tout ce qui est privatisable. Il resterait, je dirais, modestement la police, parce que même la police se transformant en police comme ça se passe aux États-Unis, c'est-à-dire des polices de comté, c'est pour ça qu'on donne plus de puissance, par exemple, à la police municipale et on déplace pour certaines missions la sécurité à la sécurité privée. Mm-hmm. Les aéroports, moi, je me rappelle, il y a 25 ans, les aéroports étaient préservés par la police nationale, maintenant ce sont des sociétés privées, et ça va partout comme cela. C'est-à-dire, on crée un climat d'insécurité et derrière, on délègue les missions qu'on appelait régaliennes à des sociétés privées. Est-ce qu'un jour, on ferait comme aux États-Unis, il y aura 10 milices privées, puisqu'on parle maintenant des sous-traitants de l'armée américaine en Irak, en Afghanistan, mais en réalité, ce sont des militaires, je dirais, privés qu'on embauche. On les appelle des sous-traitants de l'armée. Est-ce qu'à un moment donné, on va aboutir à sous-traiter également l'émission de l'armée française? Je me pose des questions parce que quand on écoute, par exemple, les hauts gradés de l'armée française, ils disent qu'on n'en a plus les moyens. Est-ce qu'à ce moment-là, on est en train de préparer derrière, j'ai envie de dire, une armée parallèle? Ça peut paraître excessif comme propos, mais en réalité, la privatisation va à marche forcée dans tous les secteurs. Et évidemment, la question qui est posée à l'ensemble de la population, c'est surtout la santé et la retraite, parce que jusqu'à maintenant, c'était considéré comme des privilèges de la libération. Et là, ces privilèges de la libération sont en train de se disloquer, et c'est ça qui crée ces craintes et ce vent de révolte au sein de la population française.
Merci infiniment pour vos explications, Luc Michel. Quel en est votre point de vue sur ce que vient de dire André Chamy?
Je suis tout à fait d'accord. La société à l'américaine, c'est la privatisation. En Belgique, par exemple, la justice, c'est le service public justice maintenant. Et les finances, c'est le service public finance. On arrive à un modèle. Le modèle, c'est la privatisation de la guerre qui était lancée lors des guerres de Yougoslavie il y a 30 ans. Et puis, on dirait qu'avec les contractuels, les Blackwaters, le théoricien de cela, c'est Eric Prydz, le fondateur de Blackwaters, qui était ministre de George Bush II et conseiller d'Obama. Cette société américaine, c'est un échec absolu parce qu'elle est refusée par les populations européennes. La seule solution, c'est que le président minoritaire écoute la majorité des Français. Mais on n'en prend pas le chemin, tellement ces gens sont arrogants et tellement ces gens représentent des intérêts privés étrangers à ceux du peuple français.
Et à votre avis, Luc Michel, pour vous, quelle en serait la solution pour ne pas parvenir ou ne pas arriver à une américanisation de la société, comme vous le dites, vous et Maître Chamy?
C'est le changement de régime. Vous savez, moi, je suis un partisan de l'abstention révolutionnaire depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, aux élections, les gens représenteront 10, 15 ou 20% du régime, eh bien, ils auront perdu toute légitimité. Ils auront encore la légalité, mais plus la légitimité. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que le changement de régime.
Maître Chamy, une conclusion de ce que vous venez de dire aussi de Luc Michel en ce qui concerne la situation actuelle, cette fissure au sein du gouvernement de Macron et toutes vos explications. On vous écoute.
Il est indiscutable que ce que dit M. Michel sur ce point-là est vrai. Si on n'a pas de changement de régime, mais en réalité, cela ne concerne pas uniquement la France, ça concerne l'ensemble du continent européen, à tout le moins le continent européen. Parce que ce qui se passe en France se passe également dans les autres pays. Tout se passe à marche forcée, marche ou crève, pour utiliser le terme habituel en France. Et ce marche ou crève n'est plus supporté parce que vous laissez une partie de la population, je dirais, dans une situation qui se détériore de plus en plus, et la classe moyenne bascule vers la pauvreté et la misère, c'est-à-dire jusqu'à maintenant ce qui constituait le ciment de la société qui reliait entre guillemets les moins défavorisés, les plus favorisés, il y avait la classe moyenne, mais la classe moyenne est en train de subir le choc de toute cette politique qui dure depuis des années. Et tout cela, encore une fois, contre la volonté des populations et au détriment des intérêts des populations. Vous regardez ce qui se passe en Allemagne, c'est pareil. Et c'est la raison pour laquelle on voit également des débuts du mouvement en Allemagne, ce qu'on ne voyait pas auparavant. À l'époque où il y a eu les Gilets jaunes, par exemple, en France, il y a eu le même mouvement en Italie, en Espagne, au Portugal. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui se prépare, mais les gens doivent sortir de leur égoïsme pour pousser ces dirigeants vers la porte de sortie et reprendre leur destin en main et reprendre en quelque sorte l'adoption d'une nouvelle politique, cette politique qui privilégie le social par rapport aux intérêts privés, aux intérêts des grands capitaux, notamment ce qu'on appelle des fonds de pension aux États-Unis, notamment ce qu'on appelle le Big Pharma ou le Big Data, etc. Ce sont des grandes puissances économiques qui dépassent aujourd'hui les États. C'est-à-dire, quand vous dites tout simplement que 60 personnes dans le monde constituent à eux seuls plus de 60% des richesses mondiales. Mm-hmm. Des richesses mondiales. Oui. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre économique gravissime et qui nous touche tous, où qu'on soit. Et aujourd'hui, il devrait y avoir en quelque sorte une révolte de ce que j'appellerais des défavorisés dans le monde, c'est-à-dire des États entiers peuvent se manifester contrer ce projet-là. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je suis toujours pour l'axe de la résistance, parce que c'est pour moi le ferment de toute résistance dans le monde, puisque à travers ces États-là, il y aura forcément un vent et il y aura forcément une vague qui va emporter les plus puissants et les plus riches, parce que ce n'est pas quelque chose qui est concevable, ni maintenant, ni à terme.
Merci infiniment. Merci à Maître André Chamy, juriste international, Luc Michel, géopoliticien, qui était avec nous pour cette émission. Je vous remercie également, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Afrique économique.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Afrique Économie. Une émission durant laquelle nous allons passer en revue les informations et les évolutions les plus importantes dans le domaine économique sur le continent africain. Restez avec nous. En Afrique du Sud, la Banque centrale poursuit sa bataille contre l'inflation. Les observateurs espèrent que la plus récente hausse des taux sera aussi la dernière d'une longue série. Mais rien n'est moins sûr. Plusieurs marchés financiers africains subsahariens sont exposés indirectement au risque que pourrait représenter ce pays. Ce vendredi 31 mars, la valeur de la majorité des banques cotées sur le marché financier sud-africain, le Johannesburg Stock Exchange, était en baisse en milieu d'après-midi. Cette situation survient à la suite de l'annonce d'une nouvelle hausse du principal taux directeur par la South African Reserve Bank en réponse à l'inflation qui continue de progresser au-delà de ses prévisions. Les investisseurs semblent ainsi afficher leur inquiétude face au risque d'augmentation des prêts non remboursés car les taux d'intérêt sur certains emprunts tels que les crédits d'entreprise ou automobiles sont indexés sur les taux de la Banque centrale par exemple. Des obligations de 2 millions de rand remboursables sur 20 ans ont vu leur valeur de refinancement mensuel passer de 15 506 rand à 20 985. La SARB doit faire face à des arbitrages difficiles, à l'instar de nombreuses autres banques centrales africaines. L'inflation a dépassé les objectifs fixés par l'institution et elle cherche à la ramener à des niveaux qu'elle juge plus raisonnables. Cependant, la situation reste incertaine car les défis énergétiques du pays et d'autres problèmes structurels entraînent une hausse des coûts de production déjà affectés par la conjoncture internationale autour du dollar américain et des ruptures d'approvisionnement sur certains produits essentiels du matériel mondial. L'approche actuelle de la Banque centrale sud-africaine est jugée tout aussi agressive que nécessaire, mais elle suscite un débat quant à la poursuite de cette stratégie. Certains experts estiment qu'elle marquera une pause pour évaluer l'impact de ces mesures sur l'inflation et l'économie. Cela dépendra au final des perspectives d'inflation et de l'évolution de la situation mondiale. Sur le marché de la dette, la hausse surprise des taux est une bonne nouvelle pour les investisseurs sur le marché monétaire fortement exposés aux instruments à taux variables qui devraient bénéficier de rendements plus élevés. L'éloignement du nouvel aéroport du centre-ville à l'Angola a suscité des interrogations quant à son accessibilité et sa fréquentation une fois la plateforme opérationnelle. L'Angola a dévoilé cette semaine un plan d'interconnexion ferroviaire pour relier l'aéroport Antonio Agostinho Neto de Luanda au centre-ville de la capitale. Le réseau comportera 5 gares ferroviaires ainsi qu'un viaduc avec une double ligne ferroviaire de 3,07 km de large. La construction des gares est budgétisée à 255 millions USD, alors que les voies ferrées nécessiteront 162 millions USD. Cette infrastructure a été intégrée au projet pour améliorer son accessibilité, l'aéroport étant en construction en périphérie du centre-ville à environ 40 km. Selon le planning annoncé par le ministre des Transports, Ricardo Dabreux, les travaux de finition s'achèveront en juin 2020. La certification provisoire de l'aéroport devrait intervenir en août et ouvrira la voie aux premières opérations commerciales prévues pour décembre. Le projet en développement sur une superficie de 1324 hectares a été élaboré pour absorber une partie du trafic de l'aéroport du 4 février et pour impulser une nouvelle dynamique au développement du transport aérien dans la perspective de faire de l'Angola une plaque tournante de cette industrie en Afrique centrale de l'Est. Une fois opérationnelle, la plateforme pourra traiter jusqu'à 15 millions de passagers et près de 50 000 tonnes de marchandises par an. Après avoir été durement touché par la pandémie du coronavirus, le secteur du tourisme continue à remonter la pente en Ouganda. Le nombre de visiteurs demeure cependant largement inférieur au record enregistré en 2019. Les arrivées de touristes étrangers en Ouganda ont atteint 814 508 en 2022, en hausse de 59% par rapport à 2021. Selon des données publiées mercredi 29 mars par le ministre du Tourisme, de la Faune et des Antiquités. Les recettes touristes ont atteint près de 2 700 milliards de shillings durant l'année écoulée, a-t-on ajouté de même source. Pays enclavé d'Afrique de l'Est, où l'observation des animaux sauvages comme les gorilles, des montagnes, les lions et les girafes représente l'activité touristique la plus populaire, l'Ouganda avait reçu 1,5 million de touristes en 2019. Le nombre des visiteurs étrangers a cependant chuté à 473 000 en 2020 en raison des restrictions sanitaires. Le ministère du Tourisme a d'autre part précisé que l'hébergement, l'alimentation, le transport de passagers et les achats ont représenté 68% des revenus du secteur touristique en 2022, indiquant que les touristes internationaux ont passé en moyenne 7,6 nuitées dans le pays. Avec 87,8% de l'ensemble des arrivées, l'Afrique a resté le principal marché émetteur de touristes vers l'Ouganda l'an passé devant l'Asie et l'Europe. Avant la crise sanitaire, le secteur du tourisme représentait bon an, mal en environ 10% du PIB du pays. D'ici les 5 prochaines années, Madagascar veut attirer au moins 1 million de touristes. Cette ambition passe par la compétitivité du secteur touristique qui doit adapter sa ressource humaine aux nouvelles normes internationales. À Madagascar, les établissements de formation professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration mettront en œuvre de nouveaux programmes de formation dès la prochaine rentrée scolaire. Le ministère malgache de l'enseignement technique et professionnel a validé de nouveaux référentiels de formation dans le domaine. Ceux-ci fixent les contenus pédagogiques et les critères de réussite. Cette opération a pour but d'actualiser les programmes de formation professionnelle pour les accorder aux nouvelles réalités du secteur touristique. La mise à jour des référentiels de formation permettra l'ajustement des compétences des métiers de base de l'hôtellerie et de la restauration et viendra parfaire la qualité de service offert au sein de différents établissements d'hébergement et de restauration, a déclaré le ministre du Tourisme, Joël Randiaramdo. Et le processus d'élaboration de nouveaux programmes entamés en octobre 2022 a également mis à contribution le ministère du Tourisme et l'Agence française de développement en tant que partenaire technique et financier. Il a été initié dans le cadre du projet Tremplin MAD, lancé en 2020 pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans les métiers de l'hôtellerie-restauration à Madagascar. Les nouveaux programmes viennent remplacer d'anciens vieux de près de 8 ans. Ils prendront en compte les changements survenus dans le secteur touristique, notamment le changement de comportement des touristes et les nouvelles normes sanitaires. Notons que pour cette fois, la rente des programmes n'a pas pris en compte que 3 métiers, à savoir cuisinier, serveur et femme de chambre. A déjà obtenu plusieurs reconnaissances. Bema Gado, promoteur de Green Industry Place Togo, une start-up spécialisée dans la collecte, le tri et le recyclage de déchets plastiques, a décroché le premier prix au concours international Afri Plastic Challenge, assorti d'une enveloppe de 1 million de livres sterling, 745 millions francs CFA auto considérés. Selon l'entreprise britannique Challenge Works, organisatrice de la compétition avec le soutien du gouvernement canadien, la somme doit servir à la mise à l'échelle de son service au Togo. Lancée en juillet 2021, la Free Plastic Challenge a déjà attribué 4,1 millions de livres sterling à 9 projets en Afrique subsaharienne. La phase finale de cette édition s'est tenue du 13 au 16 mars 2023 à Nairobi, au Kenya, avec 240 projets sélectionnés en Afrique sur 1141. Candidature, la solution GIP Togo consiste en des unités opérationnelles dans les principales villes du pays en collaboration avec les autorités locales. Dans le cadre de son développement et de son positionnement, elle a été appuyée par le Fonds Appui aux initiatives économiques des jeunes qui a également soutenu sa participation à la Free Plastic Challenge Relais Togo First.
Thank you.